Frères et sœurs et amis, je crois en la parole de Dieu. Je crois en sa puissance. Moi, je n'ai rien à vous dire de nouveau. Je n'ai rien à vous dire de personnel. Aussi, je vais parcourir avec vous la parole de Dieu et suivre un itinéraire qui nous instruit de Pâques. Alors nous allons prendre d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 1 à 6. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Ensuite, un peu plus loin, nous voyons les deux disciples à qui le Seigneur a parlé sur le chemin d'Emmaüs et qui reviennent à Jérusalem pour le dire aux autres. Et ces autres, les autres apôtres, les autres disciples, qui leur disent au verset 34, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Cela a donné ce que l'on appelle la salutation pascale dans certaines églises. Le Christ est ressuscité, avec la réponse « En vérité, il est ressuscité » ou « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Le Christ est ressuscité. Et vous, vous répondez « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Bien sûr, cela peut devenir une formule, un rituel. Même si nous ne voulons pas tomber dans des habitudes rituelles qui seraient vides de sens, est-ce que l'on ne peut pas, dans une église évangélique, à Pâques, se saluer comme cela ? Christ est ressuscité. Bien, le Seigneur est réellement ressuscité. C'est lors de la fête des pains sans levain, qui est appelée la Pâque, que Jésus a été crucifié. Cette Pâque juive, instituée avant la sortie d'Égypte, lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 12 et versets 1 à 14 pour simplement avoir ce récit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Cette Pâque juive fut un moment dramatique pour l'Égypte, qui avait déjà subi 9 plaies à cause de l'endurcissement de Pharaon. Cette dernière plaie s'attaque à tous les premiers-nés, sans distinction. Les premiers-nés des Hébreux, quant à eux, vont échapper à la mort. Pas à cause de leur justice, mais par l'effet de la grâce de Dieu, à cause du sang d'un agneau sans défaut qui a été immolé et dont le sang a été badigeonné sur les linteaux et les montants des portes. C'était un jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Ces faux dieux, ces idoles, qui étaient adorés, invoqués, mais qui n'avaient aucune capacité, aucune puissance pour sauver. Dieu démontre leur impuissance et montre sa gloire, sa toute-puissance aux yeux des nations de l'époque. L'Égypte était une grande nation et elle représente le monde sans Dieu, soumis à l'idolâtrie. De la même façon, le jugement va s'abattre sur ce monde, cette civilisation mondiale qui vit sans Dieu, soumise à toutes sortes de fausses croyances. Et plutôt que de croire à quelques complots, ne faut-il pas penser que cette pandémie que nous vivons, qui n'épargne aucun pays, peut être la première plaie qui annonce le jugement final des nations. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, versets 6 à 10, nous lisons « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Les Hébreux qui avaient vu les 9 premières plaies Quand Moïse leur a dit ce que Dieu allait faire et ce qu'ils devaient faire, eux n'ont pas discuté, ils n'ont pas tergiversé, ils ont tué cet agneau, ils ont mis son sang sur les poteaux et les linteaux, ils se sont réunis dans leur maison et ils ont mangé l'agneau et ils se sont tenus prêts au départ. Pâques, Pessa en hébreu, passage, passer au-dessus ou sauter au-dessus. L'ange exterminateur est passé sur l'Égypte. Tous les premiers-nés sont morts. Mais quand il a vu le sang sur les maisons des Hébreux, il est passé par-dessus en laissant la vie. Dieu a racheté tous les premiers-nés hébreux. Cela nous fait réfléchir. Ferions-nous la même chose pour être protégés du jugement ? L'avons-nous fait tous pour être protégés du jugement qui va venir ? Dans Hébreux au chapitre 2, versets 1 à 3, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Un agneau, sans défaut, mâle, âgé d'un an. En Exode 30, de 11 à 16, on voit que le dénombrement des hommes commençait à partir de l'âge de 20 ans et que chaque homme devait payer le rachat de sa personne à l'Éternel afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Car Dieu a donné un ordre de ne pas dénombrer. Nous appartenons à Dieu, c'est lui qui connaît le nombre. Mais quand il y a un dénombrement qui est fait des hommes, eh bien chaque homme devait payer à l'Éternel le prix de son rachat. 20 ans, c'était le début de la vie adulte. Un an pour un agneau, ça correspond à peu près à 20 ans pour un homme. C'est un adulte, c'est un jeune adulte. Ce n'est pas un petit agneau, c'est un jeune adulte. C'est un mâle. Ce détail a de l'importance quand on pense au Christ rédempteur. Sans défaut pour un homme, sans infirmité, mais aussi sans péché. Toutes ces précisions concerne le Fils de l'homme, le Christ, Jésus, de qui Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ésaïe, dans son chapitre 53, au verset 7, dit « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. » Et au verset 5 de ce même chapitre 53, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le châtiment qui devait tomber sur les Hébreux est tombé sur un agneau, et le châtiment qui doit tomber sur le monde est tombé sur l'agneau de Dieu, le Christ. Pierre dit, la première épître au chapitre 1, verset 18, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. À Pâques, donc, c'était la fête des pains sans levain. Et Paul dit aux Corinthiens, dans sa première lettre, chapitre 5, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Et encore dans Hébreux, au chapitre 12, verset 12, il est dit que Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ésaïe 47, notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël, c'est lui qui est notre Rédempteur, Rédempteur, celui qui rachète les péchés, qui sauve. Il y a un seul Rédempteur, et c'est suffisant. Son sang seul suffit. 1 Corinthiens 15, nous y revenons, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son temps, en son rang, pardon, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Il y a un avant, il y a un après, il y a des étapes. Les choses avancent au rythme de l'œuvre de Dieu. Lors de la Pâque, donc, les Hébreux ont été épargnés du jugement par le sang de l'agneau et sont passés à une nouvelle étape. Ils étaient esclaves et sont devenus libres. De même, nous qui étions esclaves du péché, nous avons été libérés par le sang de Christ. Et nous avons une nouvelle vie à cause de sa résurrection. Romains 6, 3 à 11. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes donc libérés de l'esclavage et libres en Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas encore ressuscités. Nous sommes dans la deuxième étape, libres, mais toujours sur cette terre, subissant les difficultés, la maladie, la mort de nos corps, comme les Hébreux qui, même dans la terre promise, ont dû lutter, se battre, avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Et Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce n'est pas dans cette terre, cette vie présente que nous espérons, car nous y sommes malheureux, sachant ce que nous connaissons et sachant aussi ce qui arrivera au monde. Et tous les héros de la foi anonymes dont il est parlé dans Hébreux 11, au chapitre 11, donc versets 39 à 40, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. La troisième étape, ce sera la résurrection des croyants et l'enlèvement des croyants. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Cette étape-là et pour les croyants. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. L'étape suivante, après ces 1000 ans, ce sera le jugement dernier. Et enfin, cette phrase, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 14. Et Paul aux Corinthiens dit, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » La perfection, ce sera la présence de Dieu, le royaume des cieux. Et nous lisons cela dans l'Apocalypse, chapitre 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit : « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et bien que nous n'en soyons pas, frères et sœurs et amis, mais que plutôt nous soyons tous lavés par le sang de l'agneau, et que nous ayons tous part à la première résurrection. Christ est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Amen.